Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on entend dans l'Église l'évangile de Zachée qu'on vient d'entendre, c'est d'ordinaire qu'on va commencer à préparer le carême, à entrer dans ce temps de préparation du carême. Mais cette année, la date de Pâques est tellement tardive, elle est le 2 mai, Pâques sera le 2 mai, que le début du carême n'est en fait pas pour tout de suite. Et cet évangile de Zachée est lu aujourd'hui, mais on ne va pas tout de suite entrer dans cette préparation au carême. Car le dimanche du pharisien et du publicain, qui est celui qui ouvre cette période de préparation au carême, est reporté au 21 février. Dimanche prochain, le 7 février, nous fêterons la Sainte Rencontre. Nous la fêterons, disons qu'avec une liturgie aussi belle que possible, mais voilà, nous ne ferons pas la fête habituelle que vous connaissez avec Agape et petite distraction. Malheureusement, vous savez pourquoi. Beaucoup de paroisses célèbrent aujourd'hui la Sainte Rencontre, qui est en fait le 2 février, c'est-à-dire mardi. Mais moi, j'ai voulu garder cette journée aujourd'hui pour la mémoire des trois saints docteurs. Hier, c'est le 30 janvier, hier c'était donc la fête des trois saints docteurs. Je la reporte aujourd'hui et je voudrais vous parler un petit peu de ces trois docteurs. Alors, qui sont-ils ces trois docteurs, ces trois géants de la foi qu'on nomme les trois saints pères et docteurs de l'univers? Leurs noms, vous les connaissez: saint Basile le Grand, saint Grégoire le théologien et saint Jean Chrysostome. Tous les trois, ils sont représentés dans le sanctuaire. Saint Basile et saint Jean Chrysostome, les plus proches du centre, parce que ce sont les fondateurs de nos liturgies. Saint Basile, vous le reconnaissez au fait qu'il a une grande barbe longue qui se termine en pointe. Saint Jean Chrysostome, il a une petite barbe, voilà. Quant à saint Grégoire le théologien, lui, il a une grande barbe aussi, mais qui s'étale un peu comme ça, une grande barbe. Vous les reconnaîtrez, ils sont là. Vous les avez déjà vus. Mais... Voilà. Ils ont tous les trois vécu au IVe siècle. IVe siècle, ça fait dans les années 300. Basile était né en 329 à Césarée de Cappadoce. Vous savez où c'est, la Cappadoce? C'est dans le centre de la Turquie d'aujourd'hui. Et c'était une région très chrétienne à cette époque-là. Basile a été né à Césarée de Cappadoce. C'est le centre de... C'est le chef-lieu de cette Cappadoce. Et 40 ans plus tard, il est devenu l'évêque de cette ville. Et tout au long de sa vie, il combattit vaillamment et victorieusement l'hérésie arienne qui était toujours très présente. Vous savez ce que c'est, cette hérésie arienne? C'était ce prêtre d'Alexandrie qui avait déclaré que le Verbe divin, Fils de Dieu, était une créature. Voilà, je raccourcis, je schématise, bien sûr, c'est pas l'objet, mais voilà, c'était une créature. C'est pour ça que nous allons chanter tout à l'heure le credo, pour dire que ce Fils et Verbe de Dieu, il est consubstantiel au Christ, au Père. Voilà, il n'est pas créé, non créé, on le dira bien. Mais cette hérésie a été longtemps présente dans tout l'Orient et aussi en Occident. Voilà. Donc Basile, il s'est donné beaucoup de mal pour étouffer cette hérésie. Il était un pasteur attentif à son troupeau spirituel, un père compatissant pour chacun de ses fidèles, et notamment pour les plus pauvres. Il était né dans une famille un peu aisée, disons, il avait une petite fortune, et toutes ses richesses, il les consacrait aux pauvres. Mais c'était aussi un homme de foi, un homme qui connaissait les Écritures. C'est comme ça qu'on l'appelait docteur, docteur universel, lumière de la foi orthodoxe, père des moines aussi. C'est lui le premier qui a établi une règle pour les moines. Et toutes les règles de monastiques qui ont été écrites après se sont toutes inspirées, y compris celles de Saint-Benoît en Occident, se sont inspirées de celles de Saint-Basile. Nourricier des pauvres, je l'ai dit, providence de tous ceux qui espèrent en Dieu, Saint-Basile fut le modèle parfait de l'évêque, l'image vivante du Christ qui par lui se faisait tout pour tous. De santé fragile, il mourut le 1er janvier 379. Donc il était né en 29, il avait juste 50 ans. 1er janvier, vous savez, on ouvre le calendrier, le 1er janvier, c'est Saint-Basile. Saint Grégoire, lui, il est connu pour avoir pénétré profondément dans les mystères de Dieu, peut-être plus que tous les autres pères. Et c'est pourquoi il a été jugé digne du titre de théologien, comme Jean, disciple bien-aimé. Théologien, c'est pas celui qui fait profession d'enseigner les dogmes, qui parle de Dieu, hein, théos c'est Dieu et logos c'est la parole. Non, c'est celui à qui Dieu a parlé, qui par sa prière, par sa purification, s'est vraiment uni à Dieu par la grâce et s'est ensuite tourné vers le monde, vers le peuple, pour lui transmettre, tel Moïse, les oracles divins et lui communiquer la lumière à laquelle il avait été digne de participer. Comme Saint Basile et Saint Jean Chrysostome, sa vie dépasse largement les limites d'une simple biographie et se présente comme un modèle de sainteté chrétienne et ses œuvres immortelles et insurpassables de beauté et de profondeur constituent un des plus dignes ornements de l'Église. Il était né en 329, lui aussi, même année que Basile, dans une petite bourgade, lui aussi, de Cappadoce, non loin de Césarée, à Nazianze, dont son père était évêque de cette ville. Voilà, ce qui prouve qu'à l'époque, les évêques étaient mariés. Et il succéda d'ailleurs à son père comme évêque de Nazianze, un peu contre son gré. Quand je dis un peu, je crois que c'est même beaucoup, parce que lui, ce qu'il préférait, ce qu'il aimait, c'était la vie contemplative. Mais sa réputation s'était répandue, et à la demande pressante des fidèles de Constantinople, qui connaissaient cette réputation d'éloquence et de sagesse, il est venu prêcher dans la capitale de l'Empire une série de discours sur les mystères divins qui lui valurent précisément ce titre de théologien. Et malgré lui, lorsque le trône de Constantinople fut vacant, il fut élu archevêque de Constantinople, mais devant les intrigues et les luttes de pouvoir incessantes, il démissionna assez rapidement et mourut dans un exil volontaire, en retournant finalement dans la propriété de sa famille, du côté de Nazianze. Il mourut le 25 janvier. Je dis 25 janvier, c'est donc, on fête ce Saint Grégoire le 25 janvier, il n'y a pas si longtemps. Quant à Saint Jean Chrysostome, lui, il n'est pas cappadocien, il est d'Antioche. Il est né à Antioche en 349, donc 20 ans après les deux autres, il est un petit peu plus jeune. Il devint prêtre et il assura une véritable direction spirituelle dans cette ville où son éloquence était si brillante et si profonde qu'il réunissait pratiquement la ville entière à chacun de ses sermons, qui étaient souvent interrompus par des torrents de des tonnerres d'applaudissements. Et en raison de cette éloquence exceptionnelle, on le surnomma Chrysostome. Chrysostome, c'est chrysé, c'est l'or, et tome, c'est la bouche. Chrysostome, c'est bouche d'or. Lorsque l'archevêque de Constantinople, alors c'était Saint Nectaire, celui qui avait succédé à Grégoire, mourut, Saint Jean Chrysostome fut appelé, lui aussi il avait une grande réputation, il fut appelé comme successeur, et là il fit briller avec encore plus d'éclat son talent d'orateur. Il composa, entre autres, les prières de la divine liturgie que nous célébrons encore de nos jours. Les historiens, les chercheurs ont pu montrer que toute la partie centrale, la partie du canon, de l'offertoire, de l'anaphore plutôt, de notre liturgie, on retrouve les mots précisément de Saint Jean Chrysostome. Mais lui aussi, il fut victime d'intrigues, de jalousies, et il fut déposé et exilé à deux reprises. Au début des années 400, deux reprises. Il a été exilé, puis on l'a rappelé, puis de nouveau exilé, et il est mort finalement en exil à Comane. Comane, c'est dans le pont, la région qu'on appelle le pont, c'est-à-dire le nord de la Turquie, près de la mer Noire. Il est mort en 407. Alors, pourquoi est-ce qu'on fête ces trois saints docteurs le 30 janvier ? Ben, il y a une explication historique. Dans les années 1100, une querelle, une de plus, vint diviser Constantinople au sujet de ses pères éminents de l'Église, Basile, donc Grégoire le théologien, et Jean Chrysostome. Les uns disaient préférer Saint Basile aux deux autres en raison de ses qualités d'organisateur du monachisme, de lutteur contre l'hérésie, de pasteur exigeant quant à la pureté des mœurs. Mais d'autres étaient partisans de Saint Jean Chrysostome, qui avait été aussi zélé que Saint Basile pour combattre les vices, pour porter les pécheurs au repentir et élever tout le peuple à la perfection évangélique. Insurpassable par son éloquence, ce pasteur à la bouche d'or a arrosé l'Église d'un fleuve de discours propre à élever vers Dieu les âmes des fidèles, bien plus sûrement que les deux autres docteurs, disait-il. Mais un troisième groupe soutenait Grégoire le théologien en pensant qu'il était supérieur à cause de la majesté, de la pureté, de la profondeur de son langage. Il avait atteint, disait-il, un tel degré dans la contemplation de Dieu que personne comme lui n'a su exprimer si parfaitement le mystère de la Sainte Trinité. Ça, c'est vrai. Mais la querelle gagna bientôt tout le peuple de la capitale. Voilà, typiquement ces querelles byzantines. Et loin de favoriser la dévotion pour les saints, il n'en sortait que troubles et disputes sans fin. C'est alors qu'une nuit, les trois saints docteurs apparurent en songe à un homme qui s'appelait Jean Moropos, et qui est Saint Jean, qui est devenu un saint reconnu. Il était à l'époque le principal conseiller de l'empereur et responsable de la chancellerie du patriarcat. Plus tard, il est devenu métropolite. Mais donc, dans la nuit, il voit en songe les trois saints docteurs. D'abord séparément, puis ensuite tous ensemble. Et d'une seule voix, ils lui disent « Comme tu le vois, nous sommes tous les trois, tous auprès de Dieu, et aucune discorde ou rivalité ne nous sépare. Chacun d'entre nous, selon les circonstances et selon l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit et enseigné ce qui convenait pour le salut des hommes. Il n'y a ni premier, ni second, ni troisième entre nous. Aussi ordonne à ceux qui se disputent de ne pas créer de division dans l'Église à cause de nous. Puis réunis en une fête nos trois mémoires et compose un office en y insérant les hymnes dédiés à chacun de nous selon l'art et la science que Dieu t'a donné, et transmets-le aux chrétiens en leur ordonnant de célébrer chaque année cette fête. Ce saint Jean Mauropos donc s'exécuta, et comme il était respecté et connu pour sa position, mais aussi pour sa vertu, et admiré pour son éloquence, les trois parties firent la paix et la fête eut lieu le 30 janvier pour sceller ce mois pendant lequel on commémore séparément les trois hiérarches, comme j'ai dit, Basile le 1er janvier, Grégoire le 25 et Chrysostome le 27. Alors, le 27, ce n'est pas vraiment sa fête, mais c'est sa fête, c'est le 13 novembre, mais c'est la mémoire de la translation de ses reliques, parce qu'il avait été enterré là où il, dans son exil, à Comane, et puis on a transféré ses reliques, on les a ramenées à Constantinople, donc le 27 janvier. Cette fête récapitule en quelque sorte la mémoire de tous les saints qui ont témoigné de la foi orthodoxe par leurs écrits et par leur vie. Avec cette fête, c'est le ministère de l'enseignement, d'illumination de l'intelligence et des cœurs des fidèles par la parole que nous honorons. La fête des trois hiérarques est en définitive une commémoration, on pourrait dire beaucoup plus large, de tous les pères de l'Église, de tous ces modèles de la perfection évangélique que le Saint-Esprit a suscité d'époque en époque et de lieu en lieu, pour être de nouveaux prophètes, de nouveaux apôtres, les guides des âmes vers le ciel et les colonnes incandescentes de la prière qui soutiennent l'Église et la confirment dans la vérité. Personnellement, puisqu'on est encore, on termine cette période de prière pour l'unité, qui était surtout bon la semaine passée, mais voilà, moi je pense à cette pensée du père Georges Florovski, qui affirmait que l'œcuménisme moderne, c'est-à-dire voilà, cette union qu'on essaie très imparfaitement de susciter, de faire revenir entre toutes les branches du christianisme, il affirmait que cet œcuménisme aurait beaucoup à gagner par un retour à la connaissance des pères de l'Église. Et je suis tout à fait prêt à souscrire à cette pensée. Je pense que c'est par la meilleure connaissance des pères de l'Église qui sont vraiment les socles de notre foi que nous avancerons dans l'unité des chrétiens. Ô Christ, sois la gloire pour les siècles des siècles. Amen.